Philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 mars 85.
Nous avions commencé la dernière fois à montrer comment il fallait passer d'Aristote à Machiavel, ce qui représente un petit passage assez délicat, n'est-ce pas ? Alors, il faudrait faire se comprendre que immédiatement après Aristote, on passe dans des considérations tout à fait différentes, ce qu'on appelle justement l'âge hellénistique, c'est-à-dire que de fait, il va y avoir cet éclatement de la polis en cosmopolis. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, c'est les aspirations vers une civilisation qui soit universelle et au niveau du cosmos, cosmopolis. C'est ce qu'on appelle l'âge hellénistique. L'âge hellénistique, ce n'est pas du tout Platon et Aristote. Hein. C'est ensuite, c'est-à-dire la civilisation du Basileus. C'est la naissance de cela, c'est la naissance des grandes monarchies. Pour Aristote, on est devant la polis. Oui, alors c'est ça qui serait intéressant à voir au point de vue politique, c'est les significations différentes du roi. On passe de la famille à la polis d'Aristote au basileus de la cosmopolis. C'est la civilisation vraiment monarchique au sens très fort des grands rois, c'est-à-dire des grandes monarchies. Et immédiatement après la mort d'Alexandre, vous avez les Ptolémées en Égypte, les Séleucides en Asie mineure, les Antigonides en Macédoine. Autrement dit, il y a un éclatement de ces grandes orientations qui représente quelque chose de tout à fait nouveau. Vous voyez, donc les trois grandes monarchies, les Ptolémées en Égypte, les Séleucides en Asie mineure, les Antigonides en Macédoine. Macédoine et Grèce. Et ceci 45 ans après la mort d'Alexandre. Oui. Alors, on passe de l'autarkeia absolue de la cité, c'était ça qui caractérisait la cité, l'autarkeia, qui était d'une indépendance souveraine. On passe de là à l'autonomie administrative. Alors ça, c'est très intéressant, parce que je crois que pour nous, ce serait très intéressant à étudier de près ça, parce que, vous comprenez, nous avons quelque chose d'analogue, nous vivons quelque chose d'analogue. La cosmopolis, elle se construit, c'est l'international. Hein. Parlons un langage moderne. Bon, quelle différence y a-t-il entre la cosmopolis et l'international ? Donc l'éclatement du niveau des nations, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ces analogies. L'analogie de ce que représente la cité à la cosmopolis, et à ce qui va se jouer aujourd'hui, où nous avons les Nations Unies, où nous avons quelque chose qui est comme une espèce de... On tend vers un fédéralisme mondial. On tend vers ça. Évidemment, il y a des extrêmes qui veulent l'avoir, le morceau, le gros gâteau, n'est-ce pas ? Mais au fond, on tend vers un fédéralisme. Et la France est un petit canton. Le canton de Soleure. Hein. Les Ur-cantons, comme on dit en Suisse, pas les vieux cantons. Alors, on a les vieux cantons européens. Et les vieux cantons européens, ce sont tous les pays européens. On perd complètement le point de vue de ce que représente une nation. On est devant l'international. Oui, alors on a quelque chose. Et la Belgique, c'est aussi un petit canton de à côté. particularité. Donc, la cité, la cosmopolis, à partir de là, va être les nations, on va voir ça, les nations, les États. Puis on tend vers cette internationale, indépendamment du point de vue politique, hein. Une espèce de fédéralisme mondial, européen, américain, africain et international. Mondial. Vous voyez ? Alors, c'est ça qui m'intéresse, parce que, point de vue politique, hein, où joue le point de vue politique ? Vous comprenez ? Comment parler ? Si la politique avait un principe propre, l'éclatement d'un principe, c'est la suppression du principe. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur le fait qu'il n'y a pas de principe propre en philosophie politique. Vous comprenez pourquoi, hein ? Je garde mes arrières. Parce qu'autrement, si je disais qu'il y avait un principe propre, je ne pourrais plus. Parce que la cité, elle est bombardée, elle éclate, la cité. C'est un petit élément du début. C'est merveilleux, c'est ça qui a permis la... C'est l'éclatement inverse comme mouvement, vous voyez ? La science va vers le plus petit, la politique va vers le plus grand. Ça se rend compte, mais c'est deux mouvements tout à fait différents. C'est évident, d'un côté c'est la connaissance, et de l'autre côté on est dans la connaissance pratique. Et la connaissance pratique va vers cette espèce d'universalisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du fait même que nous essayons de comprendre que l'éthique enveloppe la politique, l'éthique c'est au niveau de la personne. Est-ce que la personne humaine a changé ? Est-ce que la personne humaine a changé ? Depuis Aristote, entre nous, hein, entre nous, faites attention en dehors, hein, quand vous parlez. Est-ce que la personne humaine a changé entre nous ? Non, elle n'a pas changé. Le nous demeure le même. La bouleversée, elle demeure la même. L'amour d'amitié demeure le même. La contemplation demeure la même. La finalité de la personne demeure la même. L'éthique, oh, il y a des petites modifications. Il y a des petites modifications, il y a de nouveaux problèmes surtout. C'est évident, il y a de nouveaux problèmes. La fécondation artificielle, Aristote, elle n'était pas posée. Tandis qu'on doit s'imposer en éthique, ça c'est sûr. On doit se poser la question, est-ce que la famille a changé ? Ah, la famille c'est déjà très différent. Vous voyez, les inchangeables, hein, qui sont le point de vue de l'éthique, comme la politique, elle, ne nous donne pas de nouveaux principes. C'est qu'on est uniquement en face du bien commun qui conditionne l'homme. Le conditionnement peut changer à l'infini. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est un phénomène nouveau, c'est tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette notion d'autarkeia, l'autarkeia de la cité, qui est absolu point de départ. Alors là, elle éclate. Elle devient uniquement administrative. Qu'est-ce qui demeure de l'autarkeia pour un pays ? Quelle est l'autarkeia de la France ? Quelle est l'autarkeia d'un Mitterrand ? Qu'est-ce que ça représente, l'autarkeia ? Son autonomie, il est mené par le bout du nez. Il ne faut pas trop le dire, mais l'autarkeia. Quelle est l'indépendance ? Qu'est-ce que ça représente comme indépendance ? C'est très très peu de choses. Qu'est-ce que ça représente ? C'est même plus l'indépendance administrative, d'une certaine manière. Oui, il y a une certaine indépendance administrative, c'est qu'on laisse des lois chaque pays. Il y a une certaine point de vue administratif. Plus profondément, je crois qu'on va avoir que chaque pays aura une culture, un patrimoine. Alors là, c'est vrai. Oui. Alors on voit apparaître cette notion du patrimoine. C'est assez récent, du reste. Aristote, hein. J'ai jamais posé la question du patrimoine. Il n'avait pas besoin, parce que la cité avait l'autarkeia absolue. Le patrimoine, c'est sauver les meubles qu'on peut. C'est exactement ça. Vous savez, pendant la guerre, quand on a vu les évacuations, on sauvait les meubles qu'on pouvait. Le patrimoine. vieille horloge, on garde ça. Mais la vieille horloge qui vient depuis des ancêtres et des ancêtres, on n'en fera pas une semblable, on la garde. Il y a un patrimoine, il y a une culture, une civilisation. Et encore là, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est ça que je voudrais que nous essayions de penser progressivement. C'est difficile. Hein, et c'est ça l'intérêt de faire cette petite vision que nous allons faire maintenant. Parce que jusque-là, la cité, ça va bien. On a compris à peu près ce que c'était que la politique d'Aristote. C'est pour ça que j'ai tellement insisté. Parce que c'est le noyau fondamental. C'est le noyau de référence. On va toujours se référer à ça. À cette autarchéia de la cité. C'est très curieux. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, on viendra tout le temps à ça. Alors, cet éclatement qu'on voit, n'est-ce pas ? Cette autonomie administrative. Alors, c'est la personne du roi qui s'est substituée à la police. Il y a un transfert sur le roi. C'est très curieux. C'est à partir de là qu'il y a le culte, vous voyez, le culte des empereurs. Ça n'existe absolument pas en Grèce. Absolument pas. Là, il y a un phénomène très curieux. Alors, comment expliquer ce phénomène particulier ? Dans cette espèce d'éclatement, où à la fois la distinction entre grec et barbare n'existe plus, la distinction grecque et barbare n'existe plus. Donc c'est un progrès. Est-ce que le culte du roi est un progrès? Il faut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a comme une espèce de transfert du sacré. Le roi hellénistique est devenu une divinité, un objet de culte. Et ça, c'est très, très nouveau. Et ça se trouve dans ces grandes monarchies. Pour que l'autorité, vous voyez, qui n'a plus le caractère aussi concret que la cité, puisse demeurer. Alors, il doit être enveloppé de quelque chose. Quelque chose de sacré. Alors, parallèlement à ce mouvement, comme toujours, le point de vue philosophique suit. Il y a la politique telle que nous pouvons la voir chez les stoïciens. Les stoïciens sont les premiers à dire qu'on est citoyen du monde. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est les citoyens. C'est dans Grèce, hein. C'est pour ça que quand on dit la Grèce, vous comprenez, on met des tas de choses dedans, on ne sait pas du tout. Évidemment, on pense à Aristote et on pense à ce qui est avant Socrate. Socrate, Platon, Aristote, c'est vrai. Ce sont les trois grands. Socrate, Platon, Aristote, les trois grands. Et puis après, un éclatement. Et les stoïciens représentent cette philosophie de l'éclatement. C'est l'intérêt des stoïciens. Les stoïciens représentent cette philosophie de l'éclatement où l'aspect éthique demeure très important et la vision de Dieu n'est plus une vision proprement sur la transcendance de Dieu, mais sur l'immanence de Dieu avec le point de vue de la providence. Et c'est par les stoïciens que va se faire le passage du grec au romain. C'est aussi quelque chose de très important pour nous. Et c'est la philosophie stoïcienne qui va faire ce passage. La philosophie stoïcienne est une philosophie d'une extraordinaire souplesse, parce que c'est une philosophie qui n'a plus de principe. C'est la philosophie de toutes les manières dont on peut liquider tout ce qu'on veut. La philosophie stoïcienne, c'est une philosophie du pos, du comment. Ce n'est pas une philosophie de principe. Enfin, on dirait morale de situation. Et c'est vrai, faisons attention avec tous les points d'interrogation qu'on peut mettre, mais c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Avec, au terme de cette morale stoïcienne, épictète, qui va être la liberté. Dans une morale de situation, qu'est-ce qui prime ? La liberté. C'est plus la finalité, c'est la liberté. Alors, vous comprenez que ça va très bien avec cette espèce de cosmopolis, cette espèce d'éclatement de la police, ou alors le citoyen devient un membre du tout. Panitius, venu à Rome en 144, je le cite parce que c'est le premier moment, c'est le premier moment du passage du grec au romain. Panitius, comme il y a des chances que vous ne fassiez pas beaucoup de philosophie stoïcienne, ce qui est dommage, parce que c'est intéressant, la philosophie stoïcienne, surtout ça a un grand impact vis-à-vis de toutes les pères de l'Église. Il ne faut pas oublier que c'est la première philosophie qui a influencé tout le point de vue chrétien. C'est une philosophie, vous voyez, qui justement est très souple. Elle passe du grec au romain et elle passe du romain au chrétien. C'est extraordinaire. Et ça, c'est une éthique très souple. Bon, Cicéron, ça c'est le romain. Cicéron, vous savez, est très intéressant pour le passage du grec au latin. Cicéron, 106-43, c'est lui chez qui nous trouvons en premier lieu la loi naturelle. Alors, il est très très influencé par les stoïciens. Mais c'est un stoïcien très rhétorique, Cicéron. Chez lui, on trouve la res publica, la sainte république, la res publica, la réalité est publique. C'est lui qui a inventé ça en premier lieu. Nous sommes tous là, proches de Cicéron, vous voyez, et là, les principes sont très dilués, parce que c'est le stoïcisme qui garde ça. Nous avons ensuite alors le stoïcisme romain, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Et alors Épictète, Marc Aurèle, vous voyez, c'est après Jésus-Christ. Parce que Épictète, c'est l'an 50 après Jésus-Christ. Épictète s'installe à Rome. Il parle encore grec à Rome. Épictète, c'est l'esclave devenu philosophe. Épictète, c'est le philosophe de l'intériorité. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Vous avez cette distinction que vous trouvez dans Saint Paul. Il y aurait beaucoup de choses à faire qui seraient très intéressantes. Je ne crois pas que ça a été fait. De voir la morale paulinienne et la morale d'Épictète. Marc Aurèle, c'est l'empereur. Hein. Alors là, c'est tout à fait le gros empereur, blindé d'or. Hein. Mais stoïcien quand même, philosophe. Hein. Et alors, à partir de là, on entre, mais c'est toujours sur la même mouvance, vous voyez. Autrement dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du point de vue, nous avons là donc des stoïciens. Il n'y a pas de principe nouveau. Vous êtes en face du comment, la recherche du comment. Et c'est assez normal, vous voyez, puisqu'au fond, le point de vue politique, c'est la recherche du comment. Le point de vue éthique et politique sont extrêmement liés dans les stoïciens. Les prêtres stoïciens n'auraient pas donné l'absolution à un citoyen qui ne faisait pas partie de l'État et engagé dans un mouvement politique. Vous voyez ? Sûrement pas. Il n'aurait pas pu. C'était impossible. Il fallait faire partie d'un mouvement politique. Il fallait être engagé d'un point de vue politique. Le citoyen était engagé d'un point de vue politique. C'est impossible. Il n'a plus de finalité. Il n'est plus que le comment. Et le comment implique nécessairement, si on est parti, le comment c'est le tout. Donc on est entièrement engagé dans le tout. Et puis peut-être Marc Aurèle. On voit très très bien. Ça aboutit à ça. Ça, c'est très intéressant. Alors, on peut le considérer comme une désagrégation de l'éthique, parce qu'il n'y a plus de finalité. On peut le considérer comme un progrès du côté de l'extension. C'est vraiment un progrès du côté de l'extension. Ça s'étend, c'est une monarchie merveilleuse, et ça s'étend. Il n'y a plus la distinction odieuse du grec et du barbare. Il n'y a plus la distinction odieuse du maître et de l'esclave. Tout le monde est esclave, tout le monde est barbare. Alors c'est merveilleux. On est Ça devient des choses comme ça, vous voyez, qu'il faut essayer de saisir. Évidemment, il y a l'empereur. Mais autrement, il y a une certaine, au point de vue intellectuel, c'est très net, il y a une baisse intellectuelle. Alors, le christianisme va redonner un nouvel élan, non pas premièrement politique, mais personnel. Et c'est sûr que le stoïcisme préparait le christianisme d'une façon très spéciale, plus immédiatement que l'aristotélisme et que Platon. Ça, il faut bien se le dire. Et le néo-platonisme, qui est après Plotin, va être très encore influencé par le stoïcisme au point de vue moral. Et le néoplatonisme, il ne faut jamais l'oublier, si on veut comprendre le néoplatonisme, il faut regarder les stoïciens, Platon et Aristote. C'est un cocktail des trois. Si vous voulez comprendre vraiment le néoplatonisme, il n'y a pas de principe. Il y a des sources, et puis tout découle de là. Il y a trois sources. Et tout découle de là, vous êtes dans la participation. Or, la participation... c'est encore le pos, c'est encore le comment. Vous voyez, alors il y aurait quelque chose de très intéressant à faire, au point de vue de la pensée, n'est-ce pas ? Comme la finalité en éthique stoïcienne se transforme dans le comment, la manière d'être, la manière d'opérer, la manière d'exister, de même, chez les néoplatoniciens, les principes de la philosophie sont transformés en participation. Et vous n'avez plus que la participation. Des deux côtés, c'est le comment. Le comment pratique, éthique, le comment spéculatif. Le comment spéculatif, c'est la participation. Et chez les néoplatoniciens, c'est la participation. Et ça, c'est pas moi qui le dis, puisque c'est les néoplatoniciens qui eux-mêmes le disent. La participation, c'est de l'ordre du pos. Donc, ce n'est pas de l'ordre de l'arché. Ce n'est pas de l'ordre du principe. Ce n'est pas de l'ordre de l'analyse. C'est dans ce climat-là qu'il faudrait comprendre alors, les nouveaux problèmes qui vont se poser avec le christianisme. Le christianisme n'est pas, premièrement, un renouveau politique. C'est bien évident. Le christianisme est premièrement un renouveau du sens de l'individu et de la personne. C'est en premier lieu une mystique du salut. Et du salut personnel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une mystique du salut personnel. Donc d'une certaine manière, le christianisme peut s'arranger avec n'importe quelle politique. Puisque ce n'est pas du même ordre. Vous comprenez bien. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Il peut, de fait, être le ferment de n'importe quelle politique. Parce qu'il n'est pas au même niveau. Il est dans un niveau transcendant. Il vient d'en haut. Et on comprend très bien ce que dit Jésus quand il dit « ça vient d'en haut, c'est tout. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Parce que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, il est autre chose. Il vient à la pêche à la ligne. C'est ça. Hein. C'est choisir chaque individu qui se convertit, mais peut se convertir. Et on ne lui demande pas, à ce moment-là, de faire partie d'un nouvel état politique. Non. On lui demande de faire partie de l'Église. Et l'Église, elle est dans le monde et elle n'est pas de ce monde. Alors, cependant, il est sûr que lorsque l'empereur devient Dieu, c'est pas commode. Quand l'empereur se dit Seigneur, Dominus, lorsque le César se dit Dominus, vous comprenez qu'à ce moment-là, le chrétien ne peut plus brûler des grains d'encens devant lui, ou devant sa statue, devant son image. il est obligé de dire non en tant que chrétien, qu'il a comme seul Seigneur. Mais ça, c'est justement cette espèce de culte du basileus, du culte du roi, de l'empereur, qui va être une opposition. Là, il va y avoir une opposition. Alors, il faut essayer d'entrer, ce serait très intéressant, je ne vais que simplement le signaler, les deux cités de Saint-Augustin. Voici ce qu'il dit. Je vous cite ici le passage que donne Jean-Jacques Chevalier. L'Église est la grande institutrice qui enseigne les devoirs sociaux en même temps que le devoir individuel. Car les devoirs sociaux, eux aussi, naissent des préceptes divins que ceux qui osent dire que le christianisme est contraire à la propriété, à la prospérité des États, nous donne une armée composée de soldats tels que la demande la doctrine du Christ, des gouverneurs de province, des rois, des juges, des contribuables et des collecteurs d'impôts selon les prescriptions de la doctrine chrétienne. Alors, vous voyez, tout ça est basé sur le fait de dire que le christianisme, en premier lieu, respecte le point de vue politique, les fameuses paroles de Jésus, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », vont revenir constamment. Mais il est évident qu'il va y avoir des conflits dans la mesure même où l'Église va représenter petit à petit non plus simplement le corps mystique, mais de fait va s'incarner dans une assemblée ayant ses lois, ayant son gouvernement. Il n'empêche que voici proclamé avec ces deux mots. Alors c'est toujours les deux cités de Saint-Augustin, mais les deux cités de Saint-Augustin, ce n'est pas l'Église et l'État, vous savez bien. Les deux cités de Saint-Augustin, c'est tout simplement les deux finalités qui peuvent exister dans l'homme. Ou je suis pour Dieu, ou je suis contre le Christ. Ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ceci se base sur les finalités. Je voudrais reprendre ici le commentaire du cardinal Journet là-dessus. Ce serait très intéressant. Parce que le cardinal Journet, quand il était en face des deux cités de Saint-Augustin, disait qu'il en a télescopé une intermédiaire. Entre les deux, il y a quand même l'homme. Alors ça, c'était la vision de Maritain. C'était intéressant. On est les deux cités de Saint-Augustin. Pouvons-nous poser une troisième? Et la question demeure. Hein. C'est la question demeure. Les deux cités de Saint-Augustin montrent les deux finalités de l'homme. Et ces deux finalités de l'homme, ces finalités divines, surnaturelles, ou l'égocentrisme. Et Saint-Augustin ne traite pas directement de l'Empire romain. Il ne traite pas directement d'un empire politique humain. Non. Pour lui, c'est l'Église. Je vous lis ce passage, parce que c'est quand même intéressant. À propos de l'Église comme telle, de l'intérêt de l'Église. Il rappelle la parabole du banquet dans Saint-Luc, où le maître ordonne à son disciple de faire entrer de force, compellere intrare, les gens dans sa maison, afin qu'elle se remplisse. Pourquoi l'Église ne forcerait-elle pas ses enfants perdus à revenir à elle, dès lors qu'eux-mêmes emploie la force pour faire périr les autres. que les lois impériales viennent donc au secours de la vraie foi grâce à la crainte qu'elles inspirent, cette crainte qui a ramené à l'unité chrétienne la ville même dont Augustin et l'évêque Hippone tout gagné au parti donatiste. Le grand docteur peut bien, du même mouvement, conjurer l'autorité répressive, d'user de mansuétude. Il n'en a pas moins construit la doctrine du compellere intrare, qui convertit le prince en ministre de l'intolérance religieuse. Évidemment, ça va très bien aujourd'hui, hein ? Vous voyez bien. Convertissez Mitterrand pour qu'il devienne une intolérance religieuse, hein ? Pour qu'il fasse compellere intrare. Convertissez les impies pour les faire que, de fait, on use de ce pouvoir temporel en vue de l'Église. Les distinctions de Saint-Augustin qui ne sont pas commodes. Hein. Avec ces nuances multiples, la conception augustinienne du couple Église-État restait à tout prendre conforme à une tradition patristique. La forte inclination qu'on a décidée précédemment ne tourne pas en identification des domaines respectifs des deux pouvoirs, spirituel et temporel, ni en leur confusion. Elle ne débouche nullement sur une doctrine explicite et élaborée d'absorption de l'État par l'Église, au nom des fins supérieures de la cité de Dieu. Il n'empêche que voici proclamée plus haut que jamais une prééminence de l'Église dans l'ordre des fins en tant que seule société humaine, c'est cité par saint Augustin, la seule société humaine, c'est l'Église. Que c'est la seule qui a la vraie finalité. Donc c'est la seule société humaine. Donc, en tant que seule société humaine, vouée à la construction de la cité de Dieu, qui, par contre-coup, ne pouvait que rabaisser moralement l'État. C'est évident, vous êtes la seule qui possède la vérité. L'État à côté... Vous voyez bien, c'est vrai, c'est tous les problèmes qui se posent constamment. C'est chez saint Augustin et dans les deux cités que vous les trouvez posés en premier lieu, vous comprenez. Si vous comprenez que le point de vue politique est uniquement au niveau du commun, l'Église, elle nous donne une fin, une finalité. Elle nous donne une éthique chrétienne. Elle est la seule société absolue. Alors, voyez le compte vivere. Nous, aujourd'hui, on pense à l'idéologie marxiste et le compte vivere dans l'église marxiste. N'oubliez pas que le problème s'est posé avant, et il faut le dire, le problème s'est posé avant du côté de l'Église. La seule différence, c'est que, quand même, les procédés de l'Église n'étaient pas tout à fait les mêmes, bien que... C'est très bien que quelquefois, vous savez, quand on a le pouvoir, hein, c'est pas commode de respecter les finalités. Alors, l'éthique chrétienne, la seule société absolue. Et puis, l'État qui ne regarde que le comment. C'est ça qu'on souligne, et ça il a raison, je crois qu'il a tout à fait raison de souligner qu'en effet, il y a un problème qui va se poser avec beaucoup d'acuité. Il n'empêche que voici proclamée plus haut que jamais une prééminence de l'Église dans l'ordre des fins, qui, par contre-coup, ne pouvait que rabaisser moralement l'État. La voie était ouverte à certains concepts destinés à triompher après saint Augustin. Saint Augustin restera toujours, lui, hein, dans une espèce de, on pourrait dire, de manque de précision qui va le sauver, n'est-ce pas ? Qui lui permettra de... Et c'est vrai, ça va le sauver, parce que vous pouvez très bien, dans saint Augustin, tirer pas mal de choses. À la suite d'une évolution dont Gilson estime que si rien n'autorise à croire que celui-ci l'eût prévu, elle n'en eût pas moins été impossible sans la notion augustinienne du corps social qui était forcément nouvelle en ce sens. trouver, qu'on trouverait difficilement dans l'Antiquité, l'idée d'une société fondée par Dieu lui-même, en vue d'associer les hommes à sa propre béatitude, définie par l'acceptation commune d'une même vérité et unie par l'amour commun d'un même bien. Les définitions anciennes de la société subissaient une transmutation de valeurs radicales, dès lors qu'on en rapportait l'origine à un ordre providentiel voulu par un Dieu créateur du monde, et cette première transmutation en préparait une autre, l'intégration des sociétés temporelles particulières à la société universelle de l'Église que le Moyen-Âge tentera de réaliser au nom de l'universalité de la foi. C'est évident que le problème va se poser avec beaucoup d'acuité. On aura des monarchies universelles et subitement l'Église apparaît comme la seule société catholique. Ça, je crois qu'il faut bien comprendre le problème. C'est au moment, vous voyez, où il y a eu l'éclatement de la cosmopolis qu'on retrouve l'unique cosmopolis. La seule, c'est l'Église. Or, l'un de ces concepts destinés à triompher après Augustin, en fonction de l'évolution indiquée, mais par simplification et déformation, c'est sûr, c'est une déformation de la pensée de Saint-Augustin, d'ailleurs facilement prévisible, vous voyez, facilement prévisible parce que manquant de précision, Saint-Augustin est imprégné de néoplatonisme. Il est imprégné de platonisme, donc ce n'est pas précis la pensée de Saint-Augustin, c'est bien évident. C'est pour ça qu'on l'aime tellement dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez. On l'aime beaucoup à cause de ça, sauf les orthodoxes qui n'aiment pas du tout. Mais autrement, on l'aime beaucoup parce que c'est indéterminé, on peut alors en tirer ce qu'on veut. De sa pensée authentique allait être l'augustinisme politique. L'augustinisme politique est né donc des deux cités. Cette dénomination dû à Arquillière en 1933 et qui a fait fortune, entendra souligner qu'il s'agit ici d'un raidissement doctrinal en isme, augustinisme évidemment, infidèle au sens spirituel qui est celui de la cité de Dieu, infidèle dans la mesure où une pensée aussi riche, complexe et subtile se trouve brusquement, sommairement, scolastiquement, transposé du domaine spirituel dans le domaine politique. Et on en tire les conséquences comme s'il s'agissait de deux plans qui se confondent. Il est bien évident que pour Saint-Augustin, l'universalisme de l'Église est un universalisme spirituel et divin. Donc c'est d'un autre ordre. Alors, c'est intéressant à voir, c'est que là nous entrons dans des problèmes tout à fait nouveaux. C'est vrai, avec Saint-Augustin, on entre dans des problèmes tout à fait nouveaux. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle donnée qui intervient, l'Église, la foi, la finalité surnaturelle. Alors, c'est là, on va essayer de comprendre l'augustinisme politique, avec justement ce qu'on appelle Gélas Ier. À la fin du 5e siècle, un pape, Gélas Ier, on l'appellera les définitions gélasiennes, donne ces définitions. Il rappelle que les empereurs païens avaient réuni sur leur tête la couronne des Césars et le brandeau des pontifes, et que Jésus avait interdit cette confusion. Et connaissant trop la faiblesse humaine, avait voulu équilibrer dans une prudente ordonnance les diverses autorités. À cet effet, il avait distingué les fonctions et devoirs de chaque puissance, assigné à chacune son rôle propre et sa dignité spéciale. À partir de l'avènement du Christ, aucun empereur ne pouvait plus prendre le titre de pontife. Aucun pontife revendiquait la pourpre royale. Mais les empereurs chrétiens devaient s'adresser au pontife quand la vie éternelle serait en jeu. et les pontifes usaient de la protection des empereurs dans le cours de la vie temporelle. Oui, c'est très bien résumé les deux aspects, ce qu'on appellera justement la grande querelle des deux glaives. Le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît là et qui fait le problème très complexe. Comment le levain chrétien qui transforme l'homme, la personne humaine, peut-elle transformer la communauté politique? Et c'est le problème qu'on se pose et qu'on se posera au terme. Y a-t-il une politique chrétienne? Et c'est directement dans la ligne là. Alors, vous voyez, dans la position de l'augustinisme politique, on veut faire une politique chrétienne. Alors, on durcit les positions, forcément. Saint Augustin n'a jamais parlé. Les deux cités, c'est tout à fait différent. C'est le levain évangélique par rapport à la nature humaine, par rapport à la personne humaine. Tandis qu'au contraire, ensuite, on se pose la question, est-ce que le levain, la grâce, va-t-elle transformer le point de vue d'une politique ? Alors, il faudrait, si on voulait vraiment aller jusqu'au bout, montrer comment saint Thomas, avec l'idée médiévale de l'État, va être, je crois qu'on peut le dire, et Chevalier n'hésite pas de le dire, celui qui, à la suite de saint Augustin, mais en même temps, grâce à une philosophie beaucoup plus précise que celle de saint Augustin, va pouvoir montrer la distinction entre le point de vue de l'Église et le point de vue de l'État. Je crois que saint Thomas est quand même le premier à préciser d'une façon aussi nette, grâce aux finalités. Tant que nous n'avons pas les finalités, nous ne pouvons pas faire le passage. Alors, je ne reviens pas là-dessus, sur saint Thomas, nous verrons ensuite. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après cette grande période où le problème demeure entre le point de vue chrétien et le point de vue politique, il va y avoir la Renaissance, il va y avoir la corruption de la grande synthèse de saint Thomas, et on va aller vers un État national et souverain. La revendication, parallèle, vous voyez, à Descartes, vous voyez le parallélisme, c'est aussi intéressant à voir ce parallélisme. Descartes veut redécouvrir l'autonomie, l'autarkeia de la raison, face aux théologiens. Et face aux théologiens, Descartes veut redécouvrir cette indépendance de la raison. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue du côté de la politique. On veut redécouvrir face à l'Église toute puissante, on veut redécouvrir, et qui peut-être n'a pas respecté assez, exactement comme les théologiens n'ont peut-être pas respecté assez la pensée proprement humaine. Alors, on va voir Dante, Marcille de Padoue, Occam, il faut bien le voir là, c'est la rupture de la chrétienté. Alors, Dante, il y a le livre De Monarchia. De Monarchia. 1311. Marcille de Padoue, Defensor Pacis. Et puis, Occam, à travers toutes ses œuvres, il est mort en 1349. Donc, vous voyez, au fond, la période du XIVe siècle. La période du XIVe siècle représente une espèce de désir de retrouver un État souverain. Exactement comme Descartes veut retrouver une autonomie de la raison. Il y a un mouvement parallèle. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus difficile parce que ça, c'est les finalités. Et puis, là-dessus, il faut comprendre la Renaissance. L'État-nation. Le mépris du Moyen-Âge. La Renaissance, c'est le mépris du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge dans les brumes de la foi et dans l'obscurité de la foi. Alors il faut au contraire retrouver le passé, retrouver la... Et Machiavel se situe dans cette renaissance. Machiavel domine la renaissance et c'est l'État-nation. Alors on verra Machiavel la fois prochaine. Je m'arrête à Machiavel parce que c'est l'analogue à Descartes, vous voyez. Comme pour comprendre toute la pensée moderne, il faut regarder Descartes. Pour comprendre toute la pensée moderne au point de vue politique, il faut regarder Machiavel. C'est un peu de deux points de vue analogues, si vous voulez. Et alors, en comprenant que Machiavel est le fruit, déjà, de Dante, de Marcille de Padoue et d'Octave. C'est préparé, tout ça. C'est pas une génération spontanée. Mais Machiavel représente quelque chose de typiquement spécial. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.